J'ai beau me cultiver, mes aptitudes me trahissent. On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte la liste. Ils me catégorisent sur mon milieu théoriste. Mais je pars en quête de la terre promise comme Moïse. Au début, j'essayais de camoufler mon accent dans les arts, mais quand je m'entendais parler, je trouvais ça bizarre.
Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix du Bétir. En ce vendredi après-midi, je reçois Élise et moi. Bonjour Élise. Hop, alors attendez, j'ai un petit problème du micro. Bonjour Élise.
Bonjour.
Ah voilà, excusez-moi, c'est moi qui ai mal fait. Alors, Élise, tu es une artiste de jazz et de variété. Tu chantes et tu joues également, c'est bien ça ?
Oui, je fais du violon aussi.
Voilà. Là, tu en es à ton deuxième EP et tu es en train de préparer un autre projet, je suppose.
Oui, j'ai écrit deux EP, donc un qui s'appelle La mer qui divague, un deuxième qui s'appelle Fuvo. Et là, on travaille sur un futur album.
On va peut-être essayer de commencer par écouter une de tes chansons pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore.
Avec grand plaisir.
Laquelle tu as envie qu'on découvre en premier ?
J'aimerais bien qu'on découvre Charlotte en premier.
Allez, c'est parti. Je vous laisse écouter Charlotte d'Élise et moi.
Vagabonde, ses tableaux sont comme une clé pour ouvrir la porte d'un monde qui sur elle s'est refermé. Elle pense à la mer qui chante et qui lui dit je reviendrai. C'est la même mer qui la hante. Quand elle voit le ciel se laver, Charlotte a l'humeur dérangeante. Dans la grande maison d'Ottilie, elle a cette idée qui lui chante qu'Albert reviendra dans la d'une vie dans le ventre, il ne lui reste plus de sein, elle devient maigre et immense. Charlotte a l'humeur qui chavire du même côté que la mer. Charlotte ne cesse de sentir l'avenir à un goût amer. Abandonne autrement La guerre s'est finie en elle et son corps marqué par sa sœur marque à nouveau toute son œuvre et son souvenir d'être belle.
Vous venez d'écouter Charlotte du deuxième EP d'Élise et moi, qui s'appelle Fuvo et qui est déjà disponible sur Spotify ainsi que le premier album d'Élise et moi, La mer divague. Élise, pourquoi c'était important pour toi de faire découvrir ce deuxième EP avec Charlotte ?
Alors Charlotte, c'est une des chansons qui me tient le plus à cœur dans ce deuxième EP parce que c'est un hommage à une peintre, une artiste peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Charlotte Salomon. Et qui est décédée très jeune dans le camp d'Auschwitz-Birkenau pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est un hommage qui me tient très à cœur.
Est-ce que c'était la question que j'avais préparée en écoutant tes deux albums, est-ce que Charlotte et Serge se connaissent ?
Ah. Non, pas du tout.
Alors, explique-nous pourquoi est-ce que je te pose cette question, parce que personne ne sait qui est Serge à part nous deux.
What?
Ce qu'il faut dire, en fait, ce qu'il faut expliquer aux spectateurs, c'est que dans le premier EP d'Élise et moi, il y a une chanson qui s'appelle La chanson de Serge. Oui. Et dans le deuxième, il y a cette chanson qu'on vient d'entendre qui s'appelle Charlotte. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, il y a deux EP avec une seule chanson qui porte un nom propre. Donc, je me suis demandé si Serge et Charlotte se connaissaient. Donc, on a parlé de Charlotte. Qui est Serge alors?
Alors Serge, c'est un homme que j'ai rencontré il y a beaucoup d'années, un vieil homme que j'ai rencontré à la sortie du cinéma quand j'étais étudiante au conservatoire d'Aix. J'étais allée voir un film sur l'inceste au sein de l'église. C'est vraiment, je suis sortie en pleurs du film. Et en fait, il y a un monsieur qui m'a vue en train de pleurer et qui a commencé à me parler de sa vie et à me dire qu'il était prof de français, qu'en fait sa femme était décédée. Et en fait, je l'ai écouté pendant vraiment un moment et il est parti. Et il m'a jamais demandé mon prénom, il a juste parlé de lui, donné un petit bout de son histoire comme ça. Et puis il est parti. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est dingue cette histoire, j'ai envie de la raconter. Et du coup, j'avais écrit cette chanson. Vraiment une heure après, quoi.
Ah oui, d'accord, c'est quelque chose qui a vraiment fait dans la foulée. Je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu nous racontes en tant que projet musical dans le deuxième EP ? C'était quoi ta direction artistique ?
Alors, dans le deuxième EP, on est plus sur un EP, on va dire, en hommage à. C'est un EP qui est un petit peu un qui est forcément un hommage à ma grand-mère et à sa maison dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps à écrire pendant le premier confinement, et un hommage du coup à Fuvo, qui est un petit village pas très loin d'Aix-en-Provence, et c'est un hommage aussi aux influences que j'ai pu avoir. Bon, ça a pu être Charlotte au niveau de la peinture, qui se rapproche aussi qui se rapproche de loin, mais de la peinture aussi de Frida Kahlo, que j'aime beaucoup et depuis très longtemps. Ensuite, on a Claude Nougaro, c'est Karl Karoyan qui a fait un arrangement sur Toulouse, Pareil, c'est une chanson qui me parle beaucoup. Alors, je viens pas de Toulouse, mais en fait, quand je la chante, enfin, pour moi, c'est comme si ça parlait de Marseille, en fait.
Là, j'ai l'impression, un petit peu, en étant une fille d'ici aussi, que dans la culture, les Toulousains et les Provençaux, c'est un peu des cousins, quoi.
On, oui, oui,
on vit pas ensemble, mais enfin, quand on se rencontre, on se reconnaît. J'ai l'impression aussi.
Oui, hein. Voilà.
Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a si peu de d'artistes iconiques du Sud, il y en a, mais il y en a peu, et que finalement Nougaro, en perçant là-dedans, est devenu iconique de tout le Sud, même si il n'est pas basque ou il n'est pas provençal, quoi.
Ouais. Oui, bah oui, complètement. Et du coup, c'était une influence très forte, donc on avait carrément, on a décidé de reprendre ce morceau, et puis ensuite on a, les Sylvains. Donc les Sylvains, ça parle de l'œuvre iconique de Hayao Miyazaki, dont je suis une énorme fan depuis toute petite, de tout cet univers très mystérieux, magique, spirituel.
En préparant cette émission, tu m'as donné pas mal de sources sur qu'est-ce qui était constituant chez toi de ton style, de ce que t'aimais dans la musique, etc. Et donc, je me suis dit que ce serait un super occasion de faire peut-être découvrir ou juste apprécier des grands artistes qui t'ont marqué aussi. je te propose, par exemple, de partir sur Cécile McLaurin-Salvant.
Oui,
je pense qu'il y a quelque chose... qui est une chanteuse, son art est important pour toi, mais je pense que la personne aussi a quelque chose d'important pour toi.
Oui, oui, elle est formidable. Elle a fait ses études à Aix aussi, un peu avant moi, quelques années avant.
Dans la même école, vous étiez dans le même truc ou pas du tout?
Oui, on était dans le même conservatoire, elle a eu le même prof de jazz, et voilà, même prof de jazz qui nous a beaucoup, beaucoup appris.
Qu'est-ce que tu préfères écouter? Alors ça, on va plutôt faire des extraits, comme ça on aura quand même le temps de parler maintenant. Qu'est-ce que tu préfères comme extrait entre Le Mal de Vivre, D'un Feu Secret ou One Step Ahead?
Mais faisons découvrir D'un Feu Secret qui sera dans son prochain album, Mélusine.
C'est parti alors.
D'un feu secret, je me sens consumé, sans pouvoir soulager le mal qui me possède. D'un feu secret, je me sens consumé, sans pouvoir soulager le mal qui me possède.
Alors pourquoi ma Cécile McLaurin-Salvant, dans ta vie en fait? Comment elle a impacté ta notion de la musique, Cécile McLaurin-Salvant? Ou ton travail, je sais pas. Hein.
Je pense qu'avec Carmen Maria Vegas Maria Vega et Juliette, ça a vraiment été des artistes, on va dire, jeunes et vivantes. parce que j'ai commencé le chant avec plutôt le jazz, donc avec des artistes plutôt très âgés ou mortes depuis très longtemps. Donc c'est très compliqué de s'identifier vraiment à des personnalités, quoi. Au niveau de la voix, au niveau de la maîtrise de la voix, de ce qu'elle choisit de chanter, de comment elle interprète, de comment elle articule, on va dire que c'est ce que je cherche aussi en tant que vocaliste. J'ai vraiment énormément de respect et d'admiration pour cette artiste. Là, je suis récemment allée voir Ogresse, qui est un de ses derniers spectacles avec un big band. C'était impressionnant. Il y a une énergie créative et des idées tout le temps nouvelles, très très intéressantes. Je pense que c'est pas qu'un exemple au niveau de la voix, c'est aussi un exemple au niveau de, bah, de la direction artistique, de, enfin, la direction artistique qui englobe tout, en fait. Et voilà.
C'est une question que je me posais en écoutant ton projet, c'est vraiment, c'est hyper harmonieux, je trouve, ta musique, et on sait pas trop à l'écoute si tu viens d'abord du jazz ou d'abord de la variété. Et moi, qui c'est littéralement les deux styles musicaux qui me plaisent le plus depuis toute petite, j'attendais un peu de voir une artiste comme toi qui harmonise un peu les deux genres. Et du coup, quitte à ce que ça s'entende pas, autant te poser la question, est-ce que tu peux nous dire si tu viens plutôt du jazz ou d'abord du jazz ou d'abord de la variété ou pas du tout?
Alors, c'est vrai que moi, j'appelle pas ça la variété, je dis plutôt chanson française. J'essaie vraiment d'essayer de faire la distinction.
Pourquoi? C'est quoi pour toi la distinction entre chanson française et variété française?
Chanson française, pour moi, c'est plus vieux. Et ça va être avec des formes de chansons qui vont être similaires à certaines formes de poésie, en fait. Donc avec Brassens, Brel, Barbara, Édith Piaf, Léo Ferré, où il y a vraiment une plume, où la plume est poussée, voilà, voir la plume qui passe en premier, en fait.
Oui, c'est vrai, hein, parce qu'il y a des gens que tu viens de citer qui sont pas vraiment des chanteurs, en fait. Enfin, en tout cas, quand tu écoutes ce qu'ils font, tu n'es pas halluciné par la technique vocale, quoi. C'est vraiment le texte qui t'emmène, quoi, qui t'envoûte.
Après, je suis carrément scotchée par la technique vocale de Édith Piaf, quand même.
Oui, mais je pensais plutôt à Brassens, parce qu'en vrai, Brassens...
À Brassens, ah oui.
Tu vois, quand t'écoutes Brassens, tu te dis pas « waouh, c'est un chanteur », tu vois, contrairement à Édith Piaf. Mais ceci dit, pour essayer d'apprendre un petit peu en ce moment à chanter des chansons de Brassens dans mon salon, c'est technique, hein. Je veux dire, c'est faussement simple, Brassens.
Mais complètement, et les accords aussi, ils sont faussement simples.
Oui, c'est ça. Moi, j'étais hallucinée parce que t'as l'impression que lui, il chante d'une façon hyper médium et que tout est nickel et tout, et quand toi t'es pas chanteuse et que tu t'attaques aux passantes, tu te rends compte que t'as un bout du couplet qui est trop grave et l'autre qui est trop aigu, et t'es là en mode mais il y a combien d'octaves dans ce couplet,
c'est ça. oui non
En parlant de poète d'ailleurs, est-ce que on ferait peut-être écouter un extrait, alors je sais pas, peut-être de Vega ou de je sais qu'il y avait deux poètes que tu aimais bien, c'était Jules Superville et René Char. On part sur quoi? Vega ou les deux poètes?
Mais pourquoi pas pourquoi pas un petit bout de René Char, ouais.
Allez.
C'est pas bête, ça.
Alors, dans René Char, j'ai dans mes rayons l'allégeance lue par René Char, comme une présence, l'inoffensif. Qu'est-ce que tu choisis?
Ah, la première.
Allez, c'est parti.
Allégeance. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas.
Voilà, donc allégeance. Dis-moi.
Incroyable.
Je trouve qu'on a une chance folle quand même, hein, d'avoir des enregistrements du poète qui fait son propre poème, parce que tu vois, c'était un truc qui m'a toujours posé question, même dans les symphonies classiques et chez certains poèmes, tu te dis mais... comment est-ce que l'artiste il a vraiment voulu que ce soit dit, quoi. Donc c'était très joli d'entendre René Char. Toi, c'est un poète que tu as découvert comment?
Alors, je l'ai découvert pendant mes études littéraires, Je pense en terminale, en fait, en terminale L, juste avant de. Je crois que je l'ai étudié en début d'Hippocagne aussi.
Ah, donc c'est arrivé assez tôt quand même, hein, dans ta vie.
Oui, alors j'ai pas fait long feu en Hippocagne, mais oui, il me semble qu'on l'a étudié aussi avec, côté de ça, La Princesse de Clèves et tout plein d'autres œuvres littéraires très très belles.
Je trouve que quand j'ai découvert René Char, du coup, en préparant l'émission, comme dans toutes les influences que tu m'as données, j'ai retrouvé aussi ta plume dedans. Qu'est-ce qui t'a touché, toi, dans son œuvre?
Quelle œuvre? Qu'est-ce qui m'a touchée? J'aime beaucoup la manière un peu. Alors, en fait, globalement, j'aime tout ce qui est très imagé. Donc, c'est ça qui me plaît et chez Supervielle et chez René Char. Bon, après, René Char, pour moi, c'est vraiment un autre niveau quand même que Supervielle. Ce qui me plaît, c'est la manière brute aussi d'exprimer d'exprimer des émotions, des sentiments de manière très brute. Mais oui, toutes les figures de style utilisées, puis
Ouais, c'est vraiment
je sais pas, ça
très.
me touche beaucoup comment il écrit.
Moi, je.
Mais
Oui.
en fait, quand même plutôt récemment, j'ai lu d'autres choses plus modernes, on va dire. Je suis restée très bloquée dans on va dire la vieille poésie. C'est pas vieux, mais et bon, je pense que c'est une bonne chose aussi d'avoir commencé par là, mais j'ai découvert des choses encore plus brutes et encore plus. Encore, pas encore plus belles, mais qui m'ont, enfin, dont la beauté vraiment m'a frappée tout autant que. Enfin, je ne pensais pas que c'était possible, en fait.
Tu penses à quel artiste?
Ben, il y a un poète qui est vraiment super, qui s'appelle Cédric de Mangeot, qui n'est
Ok.
pas très connu. Enfin, peut-être il est plus connu par les gens qui sont dans ce milieu-là. Et qui a écrit vraiment des œuvres très 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 belles.
Il y a quelque chose en fait que je trouve chez René Char et que je trouve chez toi, c'est qu'il y a une sorte de gourmandise. On sent que c'est pas de l'art. Enfin, je veux dire, c'est pas de l'art intellectualisé. Enfin, bien sûr qu'il a fallu une grande intelligence pour fabriquer ça, mais on sent que tu es gourmande en fait de ce que t'aimes. On sent que c'est bête à dire, mais on sent que tu fais du jazz et de la chanson française parce que d'abord t'es gourmande de ces styles-là en tant que spectatrice. Et je trouve que ça se
Oui.
retrouve. Et puis il y a une sorte de gourmandise du pays aussi, c'est-à-dire que. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour des gens qui viennent pas de région, mais c'est vrai que ça existe en nous, cette espèce de. Pour nous, la mer, ça, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose symboliquement, qui nous accompagne, qui nous guérit des fois. C'est quelque chose de très sérieux pour nous, je pense, notre pays.
L'essentiel.
Et je trouve qu'on sent ça chez toi, qu'il y a quelque chose où on sent que tu as été marqué par les lieux, quoi. Est-ce que d'ailleurs, on se réécouterait pas un extrait d'une autre chanson de ton EP?
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu veux nous faire écouter?
Avec grand plaisir, on peut écouter un bout de. On peut écouter un bout de Fuveau.
Allez, c'est parti pour un bout de fufo.
Son ossade, la dame s'en est allée vers d'autres hortensias. Debout près des lilas, à l'ombre sous un chêne, j'entends encore sa voix, la douceur de l'haleine. Les adieux sont ainsi, ils ne regardent pas dans le blanc de l'iris, ils détournent la tête, ils détournent la tête. Il détourne la tête de moi. Le manteau ruisselant d'un soleil éveillé.
Alors, c'était donc Fuveau de ton deuxième album. Il y a une question que j'ai très envie de te poser parce que, bon, là, on est à la radio, donc on ne le voit pas, mais il y a quelque chose qui est récurrent dans ton image en tant qu'artiste, c'est le bleu. Pourquoi le bleu? C'est quoi l'histoire entre Élise et le bleu?
J'ai l'histoire entre Elise et le bleu. Oui, j'ai une couleur préférée très présente. J'ai les cheveux bleus. La plupart de mes objets sont bleus. Mon téléphone est bleu. Ma Nintendo Switch est bleue. Tout est bleu, en fait. Beaucoup de choses
bleues. Tu vois la vie en bleu.
Je vois la vie en bleu. Écoute, je sais pas. Déjà, c'est une couleur qui m'apaise. Et... Il y avait une BD que j'avais beaucoup aimée qui s'appelle « Le bleu est une couleur chaude ». Ben voilà, c'est ça que je ressens avec le bleu.
C'était pas d'ailleurs le sous-texte de... Comment il s'appelle ? La vie d'Adèle.
Si, si, exactement.
C'est pas le bleu est la couleur la plus chaude ou quelque chose comme ça.
Ouais, ouais. C'est une BD en fait.
Je savais pas que c'était une BD au départ.
Ouais, c'est une super BD.
Oh, trop bien.
J'adore les BD, c'est une super BD.
Il nous reste un peu plus de 5 minutes avant de finir l'émission. Je te propose de faire un petit quiz parce que tu as eu le malheur de me dire que tu étais une grande fan de Miyazaki, comme moi-même.
Oh là là !
Et en plus, tu es musicienne. Alors moi, il y a quelque chose... j'ai mon mari qui a commencé à apprendre une des chansons de Miyazaki. J'arrive à reconnaître que c'est une chanson de Joe Aishi. Oh là là, j'arrive jamais.
Joe Aishi.
Merci, Joe Aishi. Mais j'arrive jamais à savoir de quel film c'est, donc tu t'en doutes. Le quiz d'aujourd'hui, c'est retrouver de quel film est tirée la chanson, que les extraits que je vais te faire écouter.
Oh là 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 là.
Es-tu prête ?
Oh my god, oui, okay. Je suis prête. Putain.
Alors, attention, je vais laisser nos micros allumés hein, pendant le quiz, donc tu peux commenter si tu veux. Attention, c'est parti.
Le voyage de Chihiro.
Absolument, c'est le voyage de Chihiro. La chanson s'appelle La sixième station.
Incroyable. Oui, c'est quand elle est avec le sans visage.
Exact.
Où c'est le moment où tout le monde pleure.
C'est le moment où tout le monde pleure.
C'est si beau ce moment.
Alors, qu'est-ce qu'on va... Attends, on va lui mettre
en fait,
ça.
J'ai intérêt à gérer le truc parce que mon petit frère est très fan aussi. Mon petit frère et ma petite sœur sont très fans. Et si je leur fais écouter ça et que j'ai pas deviné, ils vont me taper sur les doigts.
Qu'est-ce que c'est ?
Attends. Oh, j'hésite. C'est Kiki la petite sorcière ?
Oui !
Yes,
c'est Kiki la petite sorcière. Je suis hyper, je suis hallucinée que t'arrives à autant bien trouver. Bon, en même temps, c'est un peu ton métier, la musique. Ok, je vais essayer. Tiens, ça, on va voir si t'arrives à le trouver.
Putain. Attends.
Ouais.
Rousseau ?
Absolument !
Yes !
J'étais en train de me dire, va falloir que je lui donne un indice quand même, et c'est vrai que l'indice que je t'aurais donné facilement, ça aurait été que le film se passe en Méditerranée quand même, ouais. Et en même temps, c'est vrai que ça s'entendait un peu avec les guitares.
Complètement.
Ok, on continue ?
Ah oui.
Hop là. Et ben alors. Alors lui, il veut pas marcher, c'est pas grave.
Je gagne quoi si je fais un sans faute ?
Le respect de toutes les fans de Miyazaki. C'est complètement Ponyo.
Oui, c'est Ponyo sur la falaise.
Espèce de bascule entre un truc hyper épique et un truc hyper dramatique, je trouve magnifique.
Dans le ciel.
C'est pas le château dans le ciel.
Le château ambulant.
Non plus. What? Mais je trouve que ça sonne vachement.
Attends. Nausicaa?
Non, c'est pas Nausicaa. Je vais te mettre le...
Attends. Dis rien. C'est Arietti.
Non.
What? C'est quoi? Dis rien.
Est-ce que tu veux que je te passe le main theme, le thème principal du même truc?
Mais voilà, vas-y.
C'est toujours le même film.
T'aurais pas remis chez Hero?
Non.
Ok.
Elle se méfie de moi maintenant.
Oui, mais ça me dit quelque chose en plus. Oh, ce serait Mononoke.
C'est absolument Mononoke.
Oh, ça craint. Ça craint. C'est mon préféré.
Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens pour qui Mononoke c'est le préféré. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans de Miyazaki qui pensent que c'est genre son œuvre la plus iconique.
Avec Chihiro, je pense.
Enfin, ouais.
Non, enfin, tout.
Mais moi, je sais pas, je suis un peu. Je suis gourmande de tout, en fait. Donc, j'ai pas l'impression que Mononoke soit mieux que Chihiro ou que le château ambulant, par exemple. Tu vois.
Non.
Alors.
Mais oui, bien sûr. Mais le thème de Arietti, je le connais aussi. Hein.
Au cas où il y avait un doute là-dessus. Hein.
Ça, c'est le château dans le ciel.
Absolument.
C'est quand elle monte dans les airs.
Waouh. Moi, j'adore château dans le ciel, c'est celui que je regarde le moins. Parce que c'est celui où on attend le plus longtemps avant de voir l'île.
Oui, la Piuta. Ouais.
C'est ça. Et du coup, genre, c'est hyper frustrant quand t'as envie d'écouter ça. Mais je salue le fait que tu fasses la différence entre le château ambulant et le château dans le ciel, sans faire de dyslexie, quoi.
Évidemment. Ah.
Il est technique, celui-là. Un indice.
Ouais.
Le film dont est tirée cette musique qu'on entend, c'est pour moi le film qui est le plus à part dans la cinématographie de Miyazaki.
Qui est le plus à part?
Ouais.
Totoro?
Non. Oh, hyper intéressant que tu dises ça.
Attends. Qui est le plus à part?
Ouais.
Ah non, c'est pas lui, je crois que c'est pas Miyazaki qui l'a fait.
Tu penses à quoi?
C'est Studio Ghibli. Loin de moi, près de toi.
Ah non. Non, c'est pas ça, mais oui, c'est pas Miyazaki qui l'a fait.
C'est très beau,
ça. C'est bien un film de Miyazaki. Et qui d'ailleurs a une place très particulière dans sa cinématographie.
Oh! Tu peux me mettre le main theme?
Je l'ai pas, j'ai que celui-là. Et en plus, je me demande si c'est pas celui-là le main theme. Enfin, je sais pas s'il y a un main theme. Tu donnes ta langue au chat?
Je donne ma langue au chat, c'est quoi?
C'est Le vent se lève.
Oh oui!
Du coup, c'est technique parce que c'est le seul film de Miyazaki qui est pas entre guillemets un Miyazaki dans le
Mais
sens
oui,
commun du
vrai.
Terme. Il y a pas de magie dedans. C'est lui qui. Il parle de sa vie de cinéaste au travers de la vie de.
Mais oui!
D'un aviateur.
C'est si beau.
Je suis assez hallucinée de voir à quel point tu sais reconnaître les musiques de Miyazaki, quoi. Moi, j'en aurais trouvé peut-être un par hasard, tu vois.
Ok,
il est 15h45 aujourd'hui, l'émission se termine un peu plus tôt. Je te laisse dire au revoir aux spectateurs et puis peut-être qu'ils vont
Merci
quitter
beaucoup.
Cette. Et qu'est-ce qu'on leur fait écouter de ton EP pour leur dire au revoir?
Ah ben on fait écouter les Sylvains du coup. Allez. Qui parlent de la forêt de Princesse Mononoke.
Merci à tous d'avoir écouté La Voix du Bétir. Un excellent week-end à vous. À très bientôt. Au revoir. Je vous laisse avec les Sylvains d'Élise et moi. À la semaine prochaine.
Un jardin tenu pour amour secret. Je ne vois même plus mes pieds. Dans ma tête, tout s'est déformé. Un loup est là. Un loup est là.
Thank you. to barki money I borrow.